L'hirondelle en partant ne sera plus l'automne.
Cultivons le plaisir. Cet été, le monde revisité à la lumière de ses mythes et légendes.
Les ailes de la pensée déjouaient le piège du bel envol.
De l'envol d'Icare à la chouette de Minerve, en passant par le filtre d'amour de Tristan et Iseut, notre culture racontée autrement, les grandes légendes de la pensée, le roman du monde à feuilleter chaque jour de la semaine à 21h40.
Déjà cet oubli est mortel. Le soleil détruit l'artifice.
France Culture, il va être midi. C'est Contre Expertise, une émission de Brice Couturier réalisée par Vanessa Nadjar. Aujourd'hui, téléchargement ou piratage. Depuis l'invention du haut débit, tous les internautes peuvent, pour une somme modique, télécharger des heures de musique gratuite, les stocker sur leur disque dur, puis les écouter sur leur baladeur. 8 millions de Français l'ont déjà fait, il y en aura d'autres, ce sont surtout les plus jeunes qui ont commencé. De temps en temps et comme au hasard, l'un d'entre eux est poursuivi et jugé. Rien que dans notre pays, il y a plus de 500 procédures en cours. Les contrevenants risquent jusqu'à 20 000 euros d'amende. Mais lorsque les auteurs d'infractions se comptent par millions, c'est que la loi est devenue inapplicable. Le Nouvel Observateur a jeté un pavé dans la mare avec son appel « Libérer la musique » lancé en février de cette année, qui a été signé par de nombreux artistes. Ce qui est paradoxal, puisque ceux-ci vivent moins que jamais de l'air du temps, et qu'il serait bien imprudent pour la création de s'en remettre au seul mécénat, fût-il public. Comment concilier les intérêts des artistes, ceux des diffuseurs, avec la culture de la gratuité, qui est aujourd'hui celle des jeunes générations? Comment adapter notre législation sur le droit d'auteur aux nouveaux médias? Pour répondre à ces questions, il y a quelques autres. Contre-expertise demandera leur lumière à Florent Latrive. Florent Latrive, vous êtes journaliste à Libération. Vous venez de publier chez Exil un livre qui s'appelle « Du bon usage de la piraterie ». Culture libre, silence ouvert. Marc Tenon, vous êtes le PDG d'un petit label qui s'appelle Atmosphérique. Je crois que vous avez à votre catalogue en particulier Louise Attaque, Louis Chédid, d'accord, enfin bon, dans la chanson française de qualité. Laurent Rossi, vous êtes directeur d'un label qui s'appelle Beggars. Alors nous avions lancé des invitations du côté des directeurs des très grandes maisons de disques, de celles qu'on appelle les majors, mais il semble très difficile de tirer de leur villa de la Côte d'Azur et de la Corse ces importantes personnalités, donc nous ne les dérangerons pas davantage. Pour évoquer l'inconnu, le monde dans lequel on est entré grâce au haut débit, finalement c'est tout récent, il faut partir du connu. Moi je vais prendre des exemples dans ce que je connais, générationnel, c'est-à-dire l'histoire récente des médias. Je me souviens de l'époque des radios libres, puisque c'est là que j'ai commencé comme bien d'autres gens de France Culture. Eh bien à cette époque, qui date finalement de 1981-1982, c'est pas si ancien, les maisons de disques se sont inquiétées beaucoup parce qu'elles disaient d'un seul coup l'offre de musique est démultipliée, thématisée. Ça coïncide avec l'apparition et surtout la généralisation du radiocassette. Donc les maisons de disques ont prédit à ce moment-là l'effondrement des ventes de disques. Et précisément en 1983, c'est 2 ans après l'ouverture des radios libres en France, le CD est apparu et ça a été au contraire l'explosion des ventes de musique enregistrée. À la même époque, on nous a fait la même histoire avec l'apparition du magnétoscope qui a fait souffler une espèce de vent de panique chez les studios hollywoodiens. Certains d'entre eux ont même intenté un procès contre Sony pour son premier magnétoscope qui s'appelait le Betamax. Et puis aujourd'hui, ces mêmes studios tirent près de la moitié de leurs revenus de la vente de films sur cassette et DVD. Alors, est-ce qu'on ne va pas aboutir inévitablement au même genre de rééquilibrage en ce qui concerne concerne le téléchargement de musique. On parlera également du téléchargement de films, parce que c'est dans le tuyau, comme disent mes excellents confrères. Déjà, les maisons de disques sont en train de travailler sur leur catalogue de téléchargement payant. Donc, est-ce que c'est pas déjà un faux problème, Florent Latrive?
Non, c'est certainement pas un faux problème. Vous avez raison de souligner que, en gros, à chaque fois, ceux qui profitent le plus de la diffusion culturelle, donc en général les maisons de disques ou les studios hollywoodiens, à un moment donné, ont toujours très peur et sont très mauvais en pronostic sur l'avenir. Bon, ce qui est normal, parce qu'une situation change. On peut refaire un petit catalogue historique, on peut remonter au 19e siècle, l'apparition des pianos mécaniques, ça a fait hurler les éditeurs de partitions qui étaient dominants en musique à l'époque, l'apparition du disque pareil. Sur la radio, c'est intéressant d'y revenir parce qu'il y a eu un précédent. Effectivement, elles ont eu très peur dans les années 80, les maisons de disques, mais en fait, elles avaient raison, parce que dans les années 30, il y avait un précédent. L'apparition de la radio aux États-Unis avait été une catastrophe pour les maisons de disques de l'époque, qui étaient assez récentes, puisqu'elles avaient pour les plus grosses une vingtaine d'années. Parce que tout simplement, la musique était diffusée gratuitement donc à la radio, et avec un son meilleur qu'on en tirait sur les appareils de l'époque, où il n'y avait pas de son correct, on ne pouvait pas régler le volume, donc non seulement l'offre était gratuite à la radio, mais en plus la qualité était meilleure. Inutile de dire qu'en l'espace de 15 ans ou 20 ans, les maisons de disques ont été mises à genoux, et n'ont commencé à renaître qu'après-guerre, avec des innovations technologiques, 45 tours, 33 tours, hi-fi, etc. Donc, tout ça comme enseignement pour en dire, et l'exemple du magnétoscope illustre aussi beaucoup, c'est pas parce qu'à un moment il y a une mutation, et que sans doute, moi j'ai tendance à penser que les maisons de disques ou les studios de cinéma sont pas les mieux placés pour faire des pronostics, mais en revanche ce qui est certain, c'est que ça déstabilise entièrement une filière et que les questions restent importantes, parce qu'on ne passe pas d'un système déstabilisé à un système qui se restabilise sans effort politique ou réflexion commune.
Oui, parce qu'il faut quand même observer que les ventes de disques se sont effondrées, enfin... tombe assez nettement. Il y a eu une progression très régulière de la vente de disques jusqu'en 1995-96, et depuis, il y a eu un tassement, et nettement depuis 2001-2002, c'est-à-dire après, pratiquement, ça coïncide pratiquement avec l'apparition du téléchargement, il y a un véritable effondrement des ventes de disques.
La relation de cause à effet peut être discutée, c'est-à-dire que là, moi j'ai tendance à mettre de côté cette relation de cause à effet, parce que c'est vrai que les maisons de disques vont avoir tendance à dire, enfin certaines d'entre elles en tout cas, à imputer toute la baisse des ventes, qui a été importante, hein, qui a été très importante, en plusieurs dizaines de pourcents, au téléchargement gratuit, à l'utilisation des systèmes qu'on appelle peer-to-peer, qui sont les systèmes d'échange de musique et de films en ligne gratuits. Bon, les études économiques qui ont été faites sont très contrastées pour une bonne raison. C'est que c'est très compliqué de savoir quelles sont les raisons. La baisse des ventes de disques a coïncidé aussi avec l'explosion du DVD, par exemple, qui a très bien marché. Donc les budgets de loisirs des ménages sont pas extensibles à l'infini. L'explosion de la téléphonie mobile, de tous les appareils, des appareils photonumériques, etc. Donc on voit bien que les facteurs qui pourraient expliquer la baisse sont multiples. Pour les économistes, c'est très compliqué. Il y a des études de fait. On trouve des résultats assez contradictoires. Certains disent qu'une part de cette baisse est due au téléchargement. D'autres disent que non. D'autres disent qu'au contraire, ça fait augmenter les ventes. Bon. Encore une fois, on en revient à la base, qui est que de toute façon, quel que soit l'effet économique direct sur les ventes de disques, la question est plus large que ça, c'est que c'est une filière qui est déstabilisée, donc comment on la remet sur pied ?
Marc Tonon, vous-même, est-ce que vous avez observé ce tassement des ventes de disques ? Vous êtes de ce métier, vous en vivez, et est-ce que vous l'attribuez au téléchargement ou à d'autres causes, et si oui, lesquelles ?
Je pense que il est clair, on l'a constaté dans tous les pays dans lesquels le haut débit est apparu, à l'exception de l'Angleterre, mais pour des raisons très très particulières. C'est-à-dire que dans tous les pays où le haut débit est arrivé, subséquemment, les ventes ont baissé. On est pratiquement à moins 40% au bout de 3 ans. C'est-à-dire on a fait de bons, de chutes de moins 15, et l'année dernière de moins 10. Il semblerait qu'on soit à moins 3 sur les 6 premiers mois de l'année, d'après les infos. Donc on ne peut pas ne pas y voir une corrélation. Toutefois, je partage également l'avis qui est de dire que il y avait une concurrence peut-être beaucoup plus sévère qu'on en avait connu jusque-là. Cela dit, à partir du moment, et là dans les rencontres que j'ai eu l'occasion de faire avec des internautes ou des jeunes, quand vous parlez de culture de la gratuité, ce qui est étonnant, c'est de voir qu'en fait, nous, on se bat aujourd'hui contre un accès. Vous avez dit en préambule, les internautes peuvent télécharger. Je suis désolé, ils ne peuvent pas. Ils ont la possibilité de le faire, mais c'est illégal. La loi est ainsi. Par contre, ça dérange pas les mêmes internautes qui, j'imagine qu'on va évoquer les sujets du prix du disque, qui sont un petit peu pour nous les j'allais dire
le vrai problème.
Peut-être pas le vrai problème. Non, je pense que c'est un petit peu la tarte à la crème dans ce genre de débat, pour être très clair et pour exprimer le fond de ma pensée.
Mais on peut rappeler le taux de la TVA en France à 17%, c'est ça, comme 19,6 sur le disque et quand même
5,5 sur les bouquins.
Pousse quand même pas mal de gens à aller acheter leurs disques de l'autre côté de la Manche où ils sont moins chers quand même.
Ils sont pas moins chers de l'autre côté de la Manche.
Non.
Ils ne sont plus moins chers de l'autre côté de la Manche.
Il faut que je sache.
Ils pratiquent du dumping à certaines périodes sur certains types de références. Mais la question du prix est très très complexe. Je pense que c'est difficile de...
Mais vous croyez pas que c'est quand même une des causes de la chute du... Les gens, surtout les jeunes, sont plus habitués à payer des prix pareils.
Mais les jeunes payent des prix beaucoup plus élevés pour 15 ou 30 secondes de musique sur un portable. La seule différence, c'est qu'ils ne voient pas ce qu'ils payent lorsqu'ils téléchargent une sonnerie avec des sons. Alors c'est très choquant, même pour des gens de notre génération, puisque nous on investit, y compris les producteurs, les artistes, énormément dans le son, dans la qualité du son. Et pour la première fois, on a un son qui est moins performant que ce qu'on a connu jusqu'à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, qui semble intéresser davantage les jeunes consommateurs de musique. Donc ça nous oblige à nous poser aussi des questions. Mais il est clair que à partir du moment où vous avez un bien qui est disponible sans qu'on doive nécessairement le rémunérer et qu'une vous avez une offre pléthorique par ailleurs, on a parlé des DVD, des jeux vidéo, etc. Forcément, ils vont acquérir les deux, certains en les payant, d'autres en les payant pas s'ils le peuvent.
Alors justement, Laurent Rossi, je crois que vous êtes plutôt pour une forme de gratuité.
Non.
Non,
non, non, non.
Ah bon, j'étais mal informé.
Je ne peux pas être pour une forme de gratuité vu que je vis également de la vente de disques et mes artistes également vivent de la vente de leurs disques. Par contre, j'ai une position peut-être beaucoup moins radicale que beaucoup de mes collègues parce que le peer-to-peer appelle pas mal de questions et nous oblige à nous remettre en cause. Les questions les plus importantes, et les blogs MP3 aussi en font partie, c'est est-ce qu'à l'heure actuelle, on sent qu'il y a que les gens veulent participer.
Non,
ils veulent participer. Ils veulent participer.
Qu'est-ce que vous entendez par là? Rajouter leur
dans le sens où les blogs sont assez marquants. On sait que les gens remettent globalement en cause l'intégralité des médias, également leur légitimité. Et que de fait, ils veulent, comme les gens maintenant ont un avis sur tout, ils veulent également faire partie du débat culturel. Donc, ça pose cette question-là. Ça pose également la question de la rémunération des artistes et des producteurs.
Attendez, ça, on va y venir, vous en faites pas.
Et ça
on
pose,
vous oublie pas.
Et ça pose encore une dernière question, qui est la question de l'offre et de l'abandon. Il est très clair que le peer-to-peer, il m'arrive de l'utiliser. C'est très mal, je sais, et c'est essentiellement pour des œuvres qui ne sont plus disponibles.
Et qui ne sont pas pour autant tombées dans le domaine public. Alors, il y a, vous savez, la médiologie de Régis Debray nous apprend que la forme du média influe sur son contenu, que c'est pas indépendant. Vous nous disiez à l'instant, le peer-to-peer, le téléchargement, c'est une qualité sonore inférieure à celle du CD. Est-ce que ça n'aurait pas pour conséquence que les contenus mêmes, les contenus musicaux, se dégradent? C'est quand même une question de fond. J'observe que beaucoup d'échanges de musique techno se font, en réalité, par le biais du téléchargement davantage que par l'achat de CD. Beaucoup de producteurs de musique techno s'en plaignent. Est-ce que par hasard, la dégradation relative de la qualité musicale de certains morceaux de cette catégorie ne viennent pas du fait de cette apparition d'un nouveau média, Florent Latrille?
Moi, je vais faire une remarque qui est plus générale, c'est qu'en matière musicale, le format et les médias de diffusion ont toujours influé sur, et c'est pas les deux producteurs qui sont autour de la table qui vont dire le contraire, ça a toujours influé. On voit bien par exemple la concomitance entre l'apparition du 45 tours et le single, etc. L'apparition du CD, par exemple, a rallongé la durée des albums, parce qu'on pouvait mettre sur un CD plus de musique que sur un 33 tours.
Les concepts albums étaient une invention radicale de la fin des années 60 qui coïncidait avec le 33 tours.
Voilà, donc on a à chaque fois l'apparition de nouvelles technologies, de nouveaux médias de diffusion en musique, c'est très clair, un flux. Alors,
sur le
long terme, sur le contenu même.
Bon, c'est donc la culture n'est pas indépendante, la création n'est pas indépendante de la forme dans laquelle...
Alors, dans le peer-to-peer, on regarde aujourd'hui ce qui se passe, et notamment dans la réappropriation, parce que Laurent Rossi a mis quelque chose que je mettrais sous le... Il y a un désir de réappropriation du public qui est pas neuf. C'est que je pense que c'est pas... Alors effectivement, on voit bien la relation avec la contestation des médias, etc., des prescripteurs en général, mais plus que ça, il faut bien voir que dans le domaine culturel, l'échange et la circulation de la culture hors des médias ou hors de la sphère marchande, historiquement, ça a toujours été le cas. On a toujours lu, dès qu'on est tout petit, on lit, on se fait lire des histoires par les autres. On prête, plus tard, on prête des livres, on prête, on copie, on enregistre. Il y a une circulation, le bouche à oreille, et c'est pas un hasard si les maisons de disques travaillent aussi beaucoup là-dessus, c'est que le bouche à oreille a toujours été un vecteur énorme de diffusion culturelle, de recommandation, tout simplement parce que la culture est faite pour se partager. La culture, on peut pas consommer, c'est pour ça que j'aime pas le mot consommation culturelle, parce que la consommation, c'est quelque chose qui est avant tout individuel. Alors on peut s'exprimer socialement par la consommation, mais en matière culturelle, c'est évident que c'est forcément... Ça tend à être collectif dans un concert, c'est évident, puisqu'on est en groupe et c'est pour ça qu'on est, le contact est important, mais c'est vrai aussi dans la vie de tous les jours. Les moyens technologiques qui sont arrivés, la mise en réseau, la numérisation, ont fait exploser cette tendance qui était déjà très forte. C'est que tout d'un coup, effectivement, à partir du moment où on a toujours facilement échangé de la musique, ou s'entend prêter des disques, ou tiens, vas-y, écoute ça, c'est formidable, etc., à partir du moment où la technologie permet de s'envoyer un morceau par mail, parce qu'il faut parler aussi de technologie presque rudimentaire à l'heure d'Internet, mais quand on a un coup de cœur pour une musique, ben moi ça m'arrive très souvent d'envoyer un fichier MP3 par mail à un copain en lui disant « Regarde, c'est vachement bien !» Ou inversement, on va profiter de toutes les choses possibles, on va découvrir, ça m'est arrivé récemment, je vais dans un concert, j'entends le Peuple de l'Herbe en concert pour la première fois, qui est un groupe assez intéressant, j'ai un flash, je rentre chez moi, je le télécharge sur MP3, je l'écoute une ou deux fois, je trouve ça vraiment bien, ça se confirme. À ce moment-là, ben, je vais le commander sur Amazon et je le fais envoyer à un ami. Donc on est dans des modes de diversité culturelle, de recommandation, qui sont, en s'appuyant sur ces nouveaux moyens technologiques, qui sont extrêmement divers, mais qui ne font que coiffer finalement ou révéler des tendances qui étaient très fortes dans la diffusion culturelle. Donc on revient encore une fois à ce problème d'équilibre après qu'il faut trouver. Les procès, je voulais rappeler, parce qu'effectivement aujourd'hui la tentation, on a dit tout à l'heure que c'était illégal de télécharger, c'est un peu plus subtil que ça, et en fait c'est pas totalement neutre de le dire, c'est qu'en droit français, il y a un droit à ce qu'on appelle la copie privée. C'est-à-dire qu'on peut copier pour son usage personnel. Alors, il y a un débat de juriste.
Un CD, une œuvre qu'on a acquise légalement par ailleurs.
Alors, ça, c'est justement, pour clore ce débat-là, parce que c'est pas très intéressant, c'est qu'il y a débat de juriste aujourd'hui pour savoir si cette copie privée s'entend, si la source elle-même est d'origine légale ou illégale. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il est très clair, et c'est comme ça la loi.
Il n'y a pas débat, c'est ce que dit la loi.
Non mais bon, peu importe. Je replace. Il y a des juristes, je travaille là-dessus assez régulièrement. Il y a des affrontements de juristes là-dessus. J'allais dire peu importe. Ça montre surtout que si les juristes,
sont pas d'accord, ça prouve bien que la loi. Si on a payé au départ au producteur son œuvre ou non.
Oui, non mais c'est pas. Je dis pas peu importe. Je prends ça comme exemple pour dire que la loi révèle. Enfin, pas forcément. Il faut de toute façon la lisser, quels que soient les choix politiques qui sont faits sur le lissage de la loi, parce que ça révèle des choses qui n'avaient pas été pensées comme telles. Il y a encore peu de temps, copier une œuvre illégale, ça paraissait inconcevable, puisque par définition, une œuvre qui a été rendue publique l'était quasiment exclusivement de façon légale. Je prends un exemple, on diffusait une musique à la radio, les radios, elles sont contrôlées, donc quand elles sont légales, elles diffusent la musique légalement, donc on avait le droit de copier puisque c'était légal. On achète un CD, on a le droit de le copier puisqu'on l'a acheté légalement. À partir du moment où sur Internet peuvent apparaître des mises à disposition illégales, ce qui est le cas avec le peer-to-peer et sans ambiguïté, tout d'un coup, la question de la légalité de la source se pose. D'où débat juridique. Ce débat n'est pas très intéressant, parce que la question, elle est plus globale que ça. C'est que c'est pas, est-ce que ça c'est légal ou pas? C'est la loi aujourd'hui est chahutée. D'ailleurs, il y a un projet de loi qui passe au Parlement à la rentrée. Tout ça doit être mis au clair. Il faut évidemment un petit peu, soit changer profondément, soit au moins amender sur quelques points la loi. C'est la question qui se pose aujourd'hui.
Il y a deux logiques. On voit bien qu'il y a la logique de la diffusion maximale des idées, des œuvres de l'esprit, de la culture, de la mise à disposition du plus grand nombre possible. Et on voit pas pourquoi on se priverait des nouveaux moyens de diffusion des œuvres de l'esprit que nous apporte Internet. Mais il y a aussi la logique de la protection du droit d'auteur, la protection du droit des auteurs sur leur propre création. Et on voit bien qu'il n'y a aucune raison pour que le créateur l'inventeur d'un logiciel ou le découvreur d'une molécule nouvelle ne soit pas aussi bien protégé que, mettons, l'ébéniste qui a créé un meuble, le designer qui a créé une collection de vaisselle, ou l'architecte qui a créé une maison. Alors, comme on est entré dans une économie de l'immatériel, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de protéger ces droits-là. Mais on peut pas en même temps, comme le font pas mal d'économistes nous expliquer que nous sommes entrés dans une économie de l'immatériel, qu'il faut de préférence externaliser les chaînes de montage dans les pays du tiers-monde pour se concentrer sur la conception, la recherche, le design, le marketing, et puis en même temps renoncer à rétribuer les concepteurs, les inventeurs, les auteurs de cette économie de l'immatériel, de ces biens et de ces services qui sont de l'ordre de l'immatériel. Et là, il y a quand même une législation à inventer, non ?
Oui, alors le renoncement, ça se pose pas en termes de renoncement à toute rémunération. Je pense que c'est, on parle de culture de la gratuité, de rémunération des auteurs, de libre diffusion. C'est pas des problèmes neufs. C'est-à-dire que depuis l'origine, ce qu'on appelle propriété intellectuelle, qui va recouvrir justement tout ce qui sont les modes de régulation, les législations dans le domaine de l'immatériel. Donc ça va du droit d'auteur, qui concerne les auteurs, compositeurs, éditeurs, les droits voisins, qui sont leur extension pour les producteurs, mais aussi les brevets. Donc on a évoqué les molécules. Donc les médicaments sont, ou les machines-outils sont protégés, les inventeurs, les entreprises qui les commercialisent et qui les ont inventés disposent de brevets qui leur assurent justement une protection là-dessus. Depuis l'origine de la propriété intellectuelle, qui en Europe se apparaît, se sédimente à peu près à la fin du XVIIIe,
grâce à quelques grands écrivains comme Beaumarchais et Diderot, on oublie toujours le rôle joué en France par...
Ils ont joué un rôle assez important. Et la Révolution française a joué un rôle important.
Le droit d'auteur pour le théâtre.
C'est lui qui a créé la SACD, qui est aujourd'hui la Société des auteurs compositeurs.
Donc on voit bien que les écrivains, à partir du moment où ils ont voulu sortir de cette dépendance à l'égard du pouvoir royal, parce qu'autrement ils vivaient du mécénat, ont voulu développer les droits d'auteur pour se protéger eux-mêmes. Donc il faudrait que cette protection persiste.
Oui, mais la question, à partir du moment où on pose cette question de la protection, la question c'est quelle protection ? Une fois qu'on a dit qu'il faut les protéger, il y a mille formes pour les protéger, il y a mille équilibres à trouver. Je prends un seul exemple, le droit d'auteur. Le droit d'auteur, parce que le droit d'auteur a toujours été conçu comme un équilibre entre protéger les auteurs, ne serait-ce que pour qu'ils soient émancipés des pouvoirs, quels qu'ils soient, et y compris économique d'ailleurs, et la question qui se posait vis-à-vis des producteurs aujourd'hui. Mais évidemment, à l'époque, le plus urgent, c'était vis-à-vis des pouvoirs des États ou politiques. Mais aussi d'encourager la plus grande diffusion de la culture, ça peut pas aller l'un sans l'autre. On peut pas protéger des auteurs et puis pas diffuser leurs œuvres. Donc la question se pose toujours dans ces termes-là. Donc une question d'équilibre, qui sont les questions évidemment politiques par excellence. Quand on invente le droit d'auteur à l'origine, on protège, donc on confère un monopole, puisque c'est une forme de monopole, sur l'exploitation d'une œuvre à son auteur pendant une durée limitée, qui est à l'origine toute la vie de l'auteur, plus, si mes souvenirs sont bons, 10 ans après sa mort. Aujourd'hui, on est à toute la vie de l'auteur, jusqu'à 70 ans après sa mort.
Plus les périodes de guerre en France.
Plus les périodes de guerre, parce qu'on considère qu'elles ont été insuffisamment exploitées. Après, l'œuvre tombe dans le domaine public, où là, elle est totalement libre de copie, de réexploitation, de réinterprétation, etc. À quelques exceptions près, puisqu'on a le droit moral en France qui amende ça de façon assez noble. En matière de brevets, puisqu'on parlait de médicaments, c'est à peu près la même chose. Un médicament va être réservé à l'exploitation pour son laboratoire pharmaceutique qu'il a mis au point pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, la molécule tombe dans le domaine public et peut être copiée par ce qu'on appelle des génériqueurs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tout ce débat entre les médicaments, les molécules qui tombent dans le domaine public, puis les génériques qui sont moins chers, quand même, de faire des économies à la sécurité sociale, etc. On voit bien, par l'exemple même du domaine public, que la propriété intellectuelle doit être limitée quelque part. On peut pas imaginer un droit d'auteur, par exemple, à vie. Il y a eu des gens pour plaider ça. C'est plus du tout dans l'air du temps, mais il y a eu des gens pour plaider ça au 18e ou au 19e. Un droit d'auteur à vie, ça impliquerait qu'aujourd'hui, les œuvres de Molière ou de Shakespeare ne sont pas dans le domaine public. C'est-à-dire qu'on peut pas faire des copies, se les passer, les commenter, les réécrire, les interpréter librement. Ça, on pourra remonter jusqu'à aux œuvres de Platon ou des choses comme ça. Enfin, on voit bien qu'il y a un côté un peu impossible à pratiquer d'un droit d'auteur à l'infini, comme un brevet à l'infini serait difficile à tenir. On voit pas pourquoi le brevet sur la machine à vapeur serait encore aujourd'hui avec des héritiers qui n'auraient rien à voir avec l'invention et on serait obligé de passer par eux pour demander l'autorisation pour inventer. Bon, voilà. Économiquement, socialement, on voit bien qu'on a besoin de retrouver à chaque fois cette équipe, donc de limiter. Ça repose la question à chaque fois de quelle équipe trouver. Moi, j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, le droit d'auteur tel qu'il est fait, on a tendance à durcir en faveur
des ayants droit. Oui, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Hein. C'est qu'il y a une aggravation des privilèges liés au droit d'auteur.
Alors, on peut le
dire. Récent.
Aggravation des privilèges, c'est tout de suite des mots. Non, je pense qu'on l'a déséquilibré. C'est-à-dire qu'il y a eu une réaction depuis 20 ans, à la fois face, alors dans le domaine culturel, c'est très net, c'est face à la numérisation qui s'étend et aux possibilités de copie. La première réaction, évidemment, c'est que là, le déséquilibre se fait dans le sens, en faveur des mélomanes, des consommateurs, etc. Donc, évidemment, tout d'un coup, que ce soit les auteurs ou les producteurs, s'inquiètent de cette diffusion toujours plus grande de la musique. Donc, la tentation est de durcir Voilà, c'est, il y a un premier des équipes qui va dans le sens des consommateurs, des usagers, etc. Et du coup, la première réaction, alors à la fois du lobbying des gens intéressés par ce métier-là, des auteurs et relayés par certains politiques, c'est de dire, bon, on va durcir. C'est normal, il y a des équipes, donc on va mieux protéger les auteurs. Donc ça peut passer par différentes formes, c'est des peines plus lourdes en cas de contrefaçon, c'est s'attaquer au public, donc le traîner devant les tribunaux alors qu'on ne le faisait pas jusque-là, c'est par exemple autoriser des systèmes anti-copies sur les CD et empêcher juridiquement qu'on les fasse sauter, quelle que soit la raison, même si elle est légitime. Enfin, ça peut passer, c'est allonger tout simplement le droit d'auteur, ce qui s'est fait aux États-Unis il y a 7 ans ou 5 ans. On a allongé de 20 ans donc leur copyright. Ça a arrangé notamment Disney, parce que les premières œuvres de Mickey, elles sont tombées dans le domaine public. Bon, donc ça, c'est la première réaction. Mais le problème, c'est que on voit pas tellement où ça mène, parce que jusqu'où ça va, comme le faisait remarquer Laurent Rossi, il y a aussi des nouveaux usages, des nouvelles pratiques, des nouvelles technologies. Durcir n'est pas un but en soi. Le but ultime, c'est toujours d'arriver à concilier le mieux possible rémunération des auteurs et libre diffusion. Bon, on y viendra après, mais c'est vrai qu'il y a d'autres idées sur la table ou d'autres pistes, même si le débat est encore difficile à mener.
Comme je fais souvent référence, et les auditeurs le soulignent, qui nous écrivent à ma propre expérience vécue, je voudrais là faire intervenir une expérience qui m'est arrivée. Quand je vivais à Varsovie, je me suis aperçu qu'au marché russe, un immense stade, le plus grand stade de Varsovie qui a été transformé en marché russe, que les Russes et les Ukrainiens viennent y vendre toutes sortes de choses, y compris des Kalachnikov, ce qui est assez inquiétant, mais ils y vendent surtout, figurez-vous, des copies de CD, des copies de jeux vidéo, des copies, bref, énormément de copies. Vous pouvez trouver le tout dernier disque de n'importe quel chanteur français ou anglo-saxon sur ce marché à environ 5 euros. Ils sont là, des milliers de copies de CD, avec le, ça va jusqu'à la copie, la photocopie de la pochette, hein, du CD. D'un côté, vous avez ce phénomène qui touche quand même, il paraît qu'en Asie c'est encore pire, des centaines de milliers, probablement des millions de copies illégales qui sont diffusées ainsi à travers le monde, d'un côté. Et puis de l'autre, on va poursuivre un malheureux prof ou parfois des étudiants particulièrement démunis à qui on va réclamer des dizaines de milliers d'euros parce qu'ils ont téléchargé un peu trop de musique sur Internet. Et surtout, ce qui est choquant, c'est que c'est fait sur une base aléatoire. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des millions de gens qui copient illégalement sur Internet de la musique, voire des images. Et puis, d'un autre côté, on en prend un peu au hasard. Ça rappelle d'ailleurs d'autres phénomènes comme la loi sur la consommation de drogue douce aussi qu'on pourrait évoquer, parce que là aussi, c'est le même phénomène où la loi manifestement ne parvient pas à s'appliquer, ou elle s'applique au hasard la chance, qui n'est jamais très bon pour la crédibilité de la loi. On a quand même là un problème de fond, Marc Tenon. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous-même, vous voyagez à l'étranger comme nous tous et vous vous êtes aperçu de ce phénomène-là. Oui, est-ce que ça vous arrive de trouver Louise Attaque à 4 ou 5 euros?
C'est même arrivé de trouver sur des marchés en France.
C'est inquiétant.
Non, c'est pas inquiétant. Vous trouvez des marques. De la même manière que vous, on se pose des questions. Pour répondre clairement à votre question sur l'injustice des poursuites, etc. D'abord, il faut dire que, à ce jour, à ma connaissance, il n'y a aucune condamnation qui a été prononcée.
Il y a des condamnations, pas des peines de prison. Hein.
Pas de prison pour l'instant et pas de grosses sommes. On a condamné essentiellement.
Un prof qui avait été condamné. Non, il y a eu la condamnation la plus lourde, parce que la peine théorique, je fais juste une assise de droit, parce qu'on l'avait dit tout à l'heure. La peine théorique, c'est 3 ans de prison, 300 000 euros d'amende qui a été durcie récemment d'ailleurs. Mais alors cette peine, elle est théorique parce qu'elle s'applique indifféremment. C'est une peine dite pour contrefaçon, donc toute atteinte à la propriété intellectuelle, qu'elle soit mafieuse, comme le type qui va importer de Chine des DVD par container entier sans payer de taxes, les vendre sur les marchés, se mettre tout dans les fouilles et puis éventuellement financer de la drogue avec, parce que ça arrive. Bon, ce type-là risque 3 ans de prison, 300 000 euros d'amende. Ça peut être aggravé si c'est en bande organisée, enfin peu importe. Donc c'est la même peine théoriquement qui s'applique à l'internaute qui est chopé parce qu'il a abusé du peer-to-peer. Bon, on voit bien qu'il y a un problème, le juge est quand même là pour mettre la peine. Ce qui s'est passé, c'est la peine la plus lourde qui a été prononcée. En banlieue parisienne. On est monté, avec les dommages et intérêts, c'est-à-dire pénal et civil, l'ensemble, on était quasiment 100 000 francs, 15 000 euros, un truc comme ça, pour un prof de 28 ans. Bon, Il a fait appel par ailleurs, voilà, etc. Donc, mais on est dans ces ordres-là. Il y a eu des mois avec sursis. Je crois qu'on est monté un moment avec un mois avec sursis
donc,
ou trois mois
donc
avec sursis.
Donc en l'état, on ne peut pas dire qu'il y ait de jurisprudence. Je pense que le législateur fait face à une situation nouvelle. Qu'effectivement, on le constate bien, et Florent Latry vient de l'expliquer, la loi n'est peut-être pas adaptée à la pratique et ne nous méprenons pas. Je pense que les producteurs, même si certains d'entre eux, je le reconnais, ont eu une communication malheureuse, un petit peu violente à une époque, ce qui
appelle à la répression, vous voulez dire.
Oui, mais le fait est que jusque cette communication assez violente que beaucoup d'entre nous, producteurs et beaucoup d'artistes ont jugé trop violent, justement, le débat se posait pas. On oublie un fondamental. On a parlé du droit d'auteur. Je voudrais parler du droit de l'interprète et du droit du producteur, parce que le producteur, lui, pour qu'un disque existe, il engage des sommes d'argent considérables. S'il n'y a plus de revenus, il ne pourra plus engager ces sommes d'argent. Et je pense que là, les artistes sont en train d'en prendre conscience. Vous avez fait référence à l'article du Nouvel Obs tout à l'heure. J'ai un artiste qui était cité dans cet article je pense que certains de ses propos ont été utilisés de manière extrêmement téléguidée. Mais il lui appartient d'en discuter probablement avec le journaliste en question. Moi, évidemment, je l'ai appelé dès l'apparition de l'article en question.
Oui, mais on m'a aussi beaucoup dit que certains producteurs avaient fait pression sur les artistes pour leur interdire de signer la pétition du Observateur dans la
mesure... Personne n'était au courant de ces pétitions. Elle est arrivée du jour au lendemain.
Enfin, il y a des noms qui ont été retirés.
Je confirme pour l'anecdote, parce que je connais bien les personnes qui ont travaillé là-dessus. Puis après, j'ai fait la tournée. Il y a eu des petits jeux de pression croisés, qui en même temps, je trouve, sont dingues. C'est-à-dire que le producteur voit d'un mauvais œil son artiste interprète s'exposer dans la presse en disant, moi, je trouve ça honteux qu'il y ait des poursuites, etc. Ça, voilà, qu'il y ait des coups de téléphone croisés, des trucs où les gens après reviennent un peu sur leurs propos ou en tout cas les amendent un peu. Tout ça me choque pas, on est quand même dans des relations, voilà. Mais c'est pour l'anecdote, effectivement, il y a eu des petites pressions.
Pour en revenir à l'essentiel, qui est la survie de la création en France. Et là, je pense qu'on ne mesure pas bien aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Dans certains pays, où la création locale, les filiales des multinationales ont supprimé purement et simplement leurs départements locaux qui produisaient des artistes locaux. Je pense à la Hollande, par exemple, où les filiales multinationales n'ont plus les budgets qui leur permettent de produire des artistes locaux, même si ces artistes vendaient des quantités intéressantes de disques. Le temps n'est pas loin, parce qu'évidemment, on est dans un... Vous me posiez la question à laquelle j'ai pas tout à fait répondu. Est-ce que vous été témoin de...
Et surtout, cette disparité de la répression entre l'incohérence de la loi qui punit la contrefaçon de masse de gens qui pillent des milliers de catalogues, et puis d'un autre côté le type qui va se télécharger pour son usage personnel en peer-to-peer et qui va être puni de la même façon.
Ceux qui ont été condamnés,
Florent Latry nous a expliqué qu'ils ont été condamnés à des peines assez légères
auxquelles ils ont fait appel, les jugements ne sont pas prononcés à ce jour, ne nous y trompons pas. Et je pense que le législateur et nous-mêmes cherchons les solutions. Il y a des propositions qui émanent de part et d'autre. On est encore dans un flou juridique, c'est le cas de le dire.
Jacques Lang appelle à une table ronde générale de la profession pour essayer de régler l'affaire et de transmettre au Parlement des idées de législation un peu plus appropriées à ce qui se passe vraiment.
Pour autant que on entende les politiques prononcer un discours différent que les simplismes habituels du type un disque coûte 1 euro dans le commerce, pourquoi est-il vendu 20 euros
ou l'inverse, de s'aligner sur le discours des producteurs, ce qui peut être le cas d'une frange des politiques. J'entends ce genre de discours des états généraux de la profession venant de la politique, ça me fait sourire, parce que il y a d'abord le phénomène des réseaux et du numérique et ces bouleversements, même si la profession a mis un peu de temps à le voir, on peut le dater à 95-96, enfin, les prémices commencent à être assez nettes. Napster, c'est la fin des années 2000. Il y a des textes de loi qui sont votés, qui concernent directement et qui d'accord posent des problèmes, parce qu'on n'a pas les coups des franges pour adapter la loi quand il y a des traités internationaux qui sont votés dès 96 à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et qu'on est obligé de transposer 9 ans après en France, alors que dans l'intervalle, il y a eu Internet, il y a eu Napster, il y a eu le peer-to-peer. On a quand même les mains liées aussi en termes de débat. Donc après, quand il y a des politiques qui sautent sur les estrades en disant grand débat national, alors qu'il y a un projet de loi qui arrive en septembre, qu'il y a déjà eu des textes européens, etc., bon, c'est un peu, voilà, j'ai botté
en touche.
C'est un peu comme Martenon, j'ai tendance à me dire, oui, il faut arrêter les simplismes et les déclarations d'intention.
Laurent Rossi, je me souviens de cette phrase magnifique que j'avais trouvée dans le livre de Christophe Charles sur les intellectuels en Europe au 19e siècle, qui racontait précisément comment le droit d'auteur était né dans nos pays d'Europe. Il citait cette phrase de l'écrivain anglais le plus riche de son temps, fin 19e, c'était Anthony Trollope, qui disait, autant qu'on sache, Shakespeare écrivait toujours pour de l'argent. J'aime beaucoup cette phrase, autant qu'on sache, Shakespeare écrivait toujours pour de l'argent. Bon, il est bien évident qu'aujourd'hui, les artistes, les intellectuels, les créateurs sont pas de purs esprits, ou ils sont pas tous milliardaires ou hauts fonctionnaires. Donc, il faut bien qu'ils vivent du produit de leurs œuvres. Comment vous voyez le curseur dans ce débat qu'on vient d'avoir sur l'équilibrage, le rééquilibrage nécessaire entre la défense du droit des auteurs, des producteurs, etc., et puis la défense du public à pouvoir accéder au plus grand nombre d'œuvres possibles, le plus vite possible?
Alors, bah, ça pose fondamentalement la question des revenus, de fait. À partir du moment où la création en tant que telle et la production en tant que telle n'est plus rémunérée à sa juste valeur et à son juste prix, qui permet à tout le monde de vivre, je ne parle pas forcément de devenir milliardaire, parce que très peu d'artistes sont milliardaires, mais de vivre, ça veut dire qu'il y a, comme je ne pense pas qu'on va arrêter cette vague de fond, ça veut dire que ça pose quand même beaucoup de questions. Est-ce qu'on va revenir à un mécénat, et un mécénat privé, ce qui me semble absolument pas souhaitable? Je n'ai pas envie que Coca-Cola se pose comme producteur, ni que Microsoft se pose comme producteur.
Je peux vous dire, dans le domaine que je couvre un peu comme journaliste, la musique classique, hélas, c'est en train de se multiplier. Je veux dire, ce sont les banques, etc., les départements et les régions qui financent les orchestres. Ce n'est plus les ventes de disques.
Et c'est assez dangereux, parce que la culture a un rôle également social important et d'évolution importante. À partir du moment où elle est mise entre les mains d'intérêts privés,
ou même public d'ailleurs, on risque la culture officielle.
On risque la culture officielle. Donc, il va falloir inventer de nouveaux modèles, des nouveaux modèles économiques. Et c'est vrai que la vraie question fondamentale, finalement, du pire tout pire, en dehors, du débat de philatéliste important, mais de philatéliste quand même, sur ce qui est légal, pas légal, comment on se rémunère, la vraie question, c'est comment on va rémunérer les artistes et les producteurs dans le futur. Ça veut dire que
justement l'offre, peut-être qu'on peut commencer à, je pense que les maisons de disques sont pas complètement stupides ni suicidaires, et visiblement elles ont commencé à réfléchir à des catalogues qui seraient offerts sur internet et qui seraient payants. Il y a déjà beaucoup d'œuvres qu'on peut télécharger en payant très légalement, tout à fait légalement, et puis on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, on peut apporter des plus qui font que on ne se contente pas d'offrir de la musique enregistrée, parce que ça tout le monde peut le faire sur internet, mais on peut offrir des choses, des produits, davantage de services qui justifient l'achat.
Thank you.
Miles Davis, Something Else. Et justement, nous sommes en train de parler de quelque chose d'autre, de quelque chose de neuf, qui est le téléchargement de musique, d'images, parce qu'il faudra, dans cette dernière partie de l'émission, parler de ce qui va arriver, c'est-à-dire très bientôt, c'est-à-dire le téléchargement de films sur Internet. Et là, ça va être une question encore plus douloureuse. Mais donc, je disais, parmi les solutions qu'ont inventées les maisons de disques, il y a le téléchargement payant. Est-ce que ça marche ou pas? C'est quand même ça le fond du problème. Ce que j'entends, c'est que ça marche pas si fort que ça, Marc Tonon.
Mais c'est un début. Historiquement, on a signé une charte avec les fournisseurs d'accès le 28 juillet 2004. Cette charte fait en sorte que les producteurs s'engagent à mettre à disposition le catalogue, c'est-à-dire le numériser et le mettre à disposition sur les plateformes qui se sont multipliées, qui sont en train de se multiplier. Le prix de vente au public, grosso modo de 99 centimes d'euros, a été fixé arbitrairement par iTunes aux États-Unis. ce qui fait que certaines plateformes ont menacé il y a 3 mois d'arrêter parce que les marges n'étaient pas suffisantes pour leur permettre de couvrir les investissements. Je pense qu'il y a un énorme effort du côté des producteurs. Je crois qu'il y a 70 à 80% du catalogue qui en moins d'un an a été rendu disponible en France. Alors effectivement, on trouve pas toujours tel amateur de telle version qui se plaindra que, mais il y a un réel travail, il y a des départements qui ont été créés, et là il est vrai de dire que il y avait un retard. Il y a d'ailleurs quelque chose assez étonnant à constater, c'est que jusqu'à Internet, la musique était progressivement détenue par ceux qui la véhiculait, c'est-à-dire que l'industrie du micro-sillon a racheté les éditeurs, ensuite l'industrie le hardware a racheté les grandes marques des années 60-70, et puis là
AOL a racheté Warner.
Oui,
dans le même ordre d'idée.
Oui. Alors certes, mais aujourd'hui ce sont les gens de Warner qui ont pris le pouvoir chez AOL. Ça s'appelle effectivement AOL Time Warner, le modèle économique, le modèle économique virtuel ne fonctionnait pas. Et là, effectivement, pour quelles raisons, peut-être que Florent Latrive peut nous éclairer à son avis, il aurait été intéressant, probablement pour les artistes et les producteurs, que de grandes marques de l'informatique achètent les catalogues, puisqu'elles auraient dès lors dû les valoriser, elles auraient proposé un modèle équitable pour l'acheteur et pour le producteur.
Alors qu'aujourd'hui, elle le propose gratuitement sans avoir payé rien à personne.
Alors,
elle le propose pas.
Il y a des sites, sites qui offrent des musiques enregistrées qu'elles n'ont pas payées, qu'elles font payer en réalité elles-mêmes parce qu'elles diffusent de la publicité et qu'elles se financent sous forme de publicité. Et on comprend que les artistes et les maisons de disques n'en soient pas ravis.
Mais ça, c'est les petits. C'est justement, par exemple, sur certains logiciels de peer-to-peer qu'on évoquait, il y a certaines entreprises qui font ça. La plus connue et la plus détestable, sans doute, étant Casa. Qui d'ailleurs est sous le coup d'un énorme procès en Australie, puisque son siège social est en Australie, où là leur modèle c'est effectivement un modèle de ripou, voilà, ils ont mis
la vampirisation.
Il la diffuse, et c'est pas qu'il pille de la musique, il la diffuse pas. C'est la subtilité quand même, que c'est quand même les usagers qui échangent la musique via ces systèmes-là. Là où ça devient effectivement un peu plus que douteux, c'est qu'une boîte comme Casa en profite assidûment, met de la pub et puis dit, ben non, je suis pas au courant, enfin bon, un truc absurde. C'est-à-dire, on supprimerait ces entreprises-là, le problème reste là, parce qu'il y a à côté de ça des logiciels de peer-to-peer, qui d'ailleurs sont beaucoup plus intéressants, comme Imule, des trucs comme ça, qui sont pas détenus par des entreprises, où il n'y a pas de publicité, voilà, donc c'est, de toute façon, le problème reste entier, l'architecture technologique est là, de toute façon, pour que les échanges se produisent, même si on faisait le ménage qui est en train de se faire légalement, parmi les cas où il y a vraiment des abus, enfin, vampirisation de l'industrie sur l'autre, les plus évidents. Sur les sites payants, parce qu'effectivement, moi, c'est un truc assez frappant. Il y a quand même quelque chose d'assez frappant dans les sites payants aujourd'hui. Marc Tonon l'a reconnu. Bon, il y a deux phénomènes. Ils sont arrivés quand même assez en retard, et notamment on a beaucoup de retard par rapport aux États-Unis. Enfin, on a toujours un décalage. C'est-à-dire que là, pour le
2 ans et demi de retard.
Voilà.
C'est moins que
et même les États-Unis sont lancés un peu tard. Non, mais c'est très embêtant parce que quand on touche à la culture, qu'on ait un peu de retard sur certains domaines technologiques, bon, alors il y a des problèmes économiques, etc. Ok. Sur la culture, quand on a du retard, ça a des conséquences très lourdes. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, s'il y a un retard sur les plateformes de téléchargement payant, il n'y a pas de retard sur l'usage d'Internet. C'est-à-dire que de toute façon, l'appétit de la culture, etc. est là. Mais, donc c'est les plateformes qui sont.
Mais soyons clairs, c'est Apple avec l'apparition de l'iPod qui a tout débloqué. Et c'est cet objet qui a permis, parce que l'intérêt de télécharger la musique, c'est de la rendre nomade. On l'a dit tout à l'heure, la qualité du son est pas la même que lorsque vous achetez un CD. Je pense que on va peut-être évoquer les efforts que font les uns et les autres artistes.
À propos d'iPod, j'ai trouvé dans le livre de Florent Latrif, qui est d'ailleurs excellent, du bon usage de la piraterie, quelque chose de très révélateur, c'est que quand Apple a proposé aux producteurs de disques de leur racheter une partie de leur catalogue pour diffuser sur iPod, ils ont dit qu'ils ne croyaient pas à ce phénomène de musique enregistrée sur baladeur. Donc quelque part, il y a aussi la faute des maisons de disques qui n'ont pas très bien compris ce qui était en train de se jouer.
Parce que je suis désolé de me viser la parole, parce que bon, il faut quand même dire que les deux producteurs qu'on a autour de la table sont, pour la faire courte, c'est plutôt des gentils et des petits par rapport aux gros qui dominent le marché. Hein, donc voilà,
c'est pas des majors, aussi, mais des majors, voilà, j'ai dit, ils sont bon, encore sur la
Côte d'Azur. On aurait Pascal Nègre d'Universal. Je lui ai demandé de venir. Ce serait pas le ministre. Bon, on l'a entendu à d'autres reprises, c'est pas grave. Ce qu'il faut dire, c'est que
ils ont un discours beaucoup plus dur.
Ils ont un discours beaucoup plus dur, mais les intérêts économiques en jeu pour eux sont aussi beaucoup plus lourds. C'est-à-dire qu'il est vrai que l'actif, le bien principal d'un producteur, c'est son catalogue. C'est l'ampleur du catalogue, c'est les grandes stars qu'il y a dedans, c'est les stars en devenir. Voilà. Donc c'est cette gestion-là qu'ils veulent maîtriser. Quand on a un catalogue qui est extrêmement important, Universal, c'est la plus grosse maison de disques du monde, alors je sais pas combien on peut chiffrer, mais par rapport à Bigard,
30% du marché.
Un truc comme ça. Donc on est dans des... C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer, quand on veut vendre de la musique, on ne peut pas se passer d'Universal. On peut pas se passer de 30% de la musique disponible à un moment donné. On peut se passer d'Atmosphérique Marc Tenon, même si c'est un peu dur de se passer de Louise Attaque en France. Mais c'est moins urgent, disons. Beggars de Laurent Rossi, c'est embêtant parce que on n'aura pas White Stripes, par exemple, en ce moment. Mais bon,
c'était le cas sur le lancement d'iTunes.
Voilà. Et d'ailleurs, les sites payants ont pu se passer de certains indépendants au début. Et d'ailleurs, se passe parfois de grosses pointures comme les Beatles pour des problèmes de droits. Mais en revanche, on peut pas se passer de ce qu'on appelle les majors, c'est-à-dire ces quatre grandes compagnies de disques internationales qui
détiennent le marché à peu près
90% des droits. On peut pas se passer de, donc, toute plateforme qui veut se lancer a besoin de passer un temps infini à les convaincre. Inutile de dire qu'au début, ces grands acteurs internationaux se sont dit, ouh là là, oui, la musique en ligne, bon, comme d'habitude, une préscience incroyable historique sur les évolutions. Ils se sont pas bougés et surtout, ils se sont dit, pourquoi c'est pas mon intérêt d'aller accompagner ce marché-là? Je suis très bien là où je suis aujourd'hui.
Avant de décéder.
Et ils ont tout bloqué, parce qu'évidemment, il suffit qu'il y en ait un qui bloque, que ce soit Yema, etc. Non, mais c'est ce qui s'est passé. Ils ont essayé de lancer leur propre plateforme. Bon, je refais l'histoire assez rapidement, mais le problème qui s'est posé à ce moment-là, parce qu'ils ont essayé aussi de lancer leur propre plateforme, c'est que quand on essaie de vendre de la musique, on est obligé d'avoir les catalogues les plus exhaustifs possibles. On n'imagine pas d'aller à la Fnac et d'avoir seulement la moitié des disques disponibles et d'être obligé d'aller à l'autre bout de Paris chez Virgin pour trouver l'autre moitié. Ça paraîtrait complètement incongru. Alors c'est ce qui se passe en ligne, c'est-à-dire qu'il y a des bouts de catalogue entiers qui sont pas là. On a parfois là, par exemple, je voyais que Steve Jobs s'était réjoui, donc le patron d'Apple, dans son magasin payant, le lancement japonais qui a eu lieu il y a 6 jours, enfin moins d'une semaine. Le lancement a été fait sur le thème « On est les premiers à offrir l'intégrale des Rolling Stones, à vendre l'intégrale des Rolling Stones en ligne ». On est en 2005. Donc, il se sert de ça comme argument de lancement. Ça prouve bien, c'est juste ça comme symbole qu'il y avait du retard. Ça, c'est quand même vraisemblable que les Rolling Stones, tout n'ait pas été là. Ouais, alors, il y a des raisons derrière de négociations, de tout ce qu'on veut. Les responsabilités sont évidemment partagées. Mais il n'empêche qu'en termes d'offres, ça paraît assez délicat à gérer, d'autant qu'à côté, le peer-to-peer, lui, a une offre qui, par définition, puisqu'elle est mise à disposition par les internautes, est quasi exhaustive.
D'où c'est un argument qui me paraît absolument décisif, c'est celui de la variété de choix. Parce qu'il est bien évident que depuis que la distribution s'est concentrée autour, en tous les cas à Paris, c'est clair, il n'y a plus que deux distributeurs de disques, il n'y a plus que deux enseignes, que d'autre part, les hypermarchés se sont lancés également dans la vente de disques, mais qu'ils ne nous vendent en réalité que les catalogues, les choses absolument évidentes pour le très 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 grand public. Enfin, leur offre est d'une extrême pauvreté dans les hypermarchés. Dans ces conditions, il est bien évident que les gens qui ont des goûts un tout petit peu plus pointus, et ils sont nombreux surtout chez les jeunes, ne peuvent qu'avoir l'envie d'aller les télécharger sur Internet, parce que le type de musique dont ils ont envie, ils ne trouveront pas dans l'hypermarché à côté de chez eux. Et puis, il n'y a pas tout dans les deux enseignes dont je parlais tout à l'heure à Paris. Enfin, dans quelques grandes villes de province, il y en a une ou deux autres. Mais enfin, en gros, cette cette concentration de l'offre, la disparition des petits disquaires. Je veux dire, moi, de mon temps, j'allais acheter du jazz chez des disquaires de jazz. Les disquaires de jazz ont disparu, tout a disparu. Il n'y a plus que quelques grandes enseignes qui monopolisent la distribution. C'est quand même un gros problème.
C'est un gros problème. dont les producteurs de musique souffrent en premier lieu. Alors, il y a des tas de raisons historiques, mais on peut quand même faire crédit aux producteurs d'avoir envie d'exposer, donc d'exploiter l'intégralité de son catalogue. Peut-être certaines pratiques du marché, je pense à l'apparition de la pub télé, qui, je crois, a transformé profondément ce métier. Nous sommes, et nous devrions redevenir, à mon sens, un métier d'artisan. C'est des rapports humains qui permettent à des entreprises artistiques d'exister, à des projets artistiques d'exister, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le livre. J'étais très frappé, j'ai vu la 500e de Poivre d'Arvor sur les éditeurs, avec une série d'éditeurs bouquins présents, et j'étais très très frappé de constater que le métier qu'on fait, très humblement, me semble extrêmement proche du leur. On est, en tout cas nous producteurs, dans un rapport quotidien et personnel avec les artistes. Je pense que si vous aviez invité des artistes ici, ils vous auraient dit que sans ce rapport, la complémentarité, parce qu'en fait, quel est notre rôle? Nous devons d'une part être des accoucheurs, c'est-à-dire leur permettre les moyens matériels certes, mais aussi psychologiques d'enregistrer, de faire éclore l'œuvre dans les meilleures conditions. Et puis ensuite, nous sommes des passeurs. Donc notre rôle, c'est d'aller vous voir, vous médias, et puis d'aller voir les magasins. C'est un métier extrêmement complexe qui rencontre plusieurs facettes. Il y a des pratiques qui sont développées. Je parlais de la pub à la télé, vous parliez des hypermarchés, qui ont induit certaines dérives probablement, dont il est vrai que certains producteurs ont profité, et les artistes aussi d'ailleurs. C'est la fameuse loi de la pyramide. Vous avez un très petit nombre d'artistes au sommet de la pyramide qui vendent des quantités énormes de disques, et puis un très grand nombre d'artistes qui sont tout en bas et qui petit à petit franchissent cette course d'obstacles du second disque, du premier, second, troisième disque, etc. Là, je pense qu'on est on est vraiment à un tournant. Il y a une redéfinition. On a brièvement évoqué le prix du disque. Sachez-le, un producteur n'a pas la maîtrise. Nous, ce qu'on peut, c'est proposer un prix de gros au public. Mais si une enseigne, vous pouvez très bien proposer, pour qu'un disque soit vendu à 15 euros dans un magasin, nous ne pouvons pas le vendre à l'enseigne plus de 10 euros. Il y aura ensuite la marge du disquaire et puis les fameux 19,6 de TVA. Vous avez au minimum à 15%. Mais rien n'empêche le disquaire de mettre ce même disque que vous lui vendez à 10 euros, de le porter à 20 euros et donc de faire une surmarge. Et s'il y a une référence qui fonctionne bien, qui plaît aux gens, il va pas hésiter à faire. Donc là, il y a un débat permanent. Je pense que une des vertus peut-être qu'aura eu Internet, c'est effectivement de rendre raisonnable une lecture des prix. Il y a en ce moment aux États-Unis une initiative qui est une chaîne de magasins, c'est une mini chaîne. Il y a 3 ou 4 magasins sur le territoire américain qui est en fait une espèce de grand hangar avec très peu de décors qui revient à l'essence même. Vous parliez de disquaire, de ce qu'était un disquaire à l'époque, où vous avez une exhaustivité de l'offre, non seulement en nouveauté et en disque neuf, mais aussi en occasion, en disque d'occasion. Et j'ai lu récemment dans la presse anglaise qu'une des grandes chaînes anglaises va consacrer un département, je suis désolé, mais visiblement ils sont en train de supprimer momentanément le département classique et jazz dans leur magasin pour tenter de vendre des secondes mains. Donc là, on voit bien qu'il y a un réajustement, il y a une recherche. Je pense que d'aucuns ont essayé de proposer de l'image en plus du son, de grands artistes comme Cabrel par exemple, consacrent énormément prennent énormément de soin aux pochettes et à fournir un ce qu'on appelle vulgairement un plus produit. Donc on est dans une période de transition. Moi, j'ose dire que en un an, il y a des progrès énormes qui ont été faits, qu'il y a un énorme travail pour en être témoin du côté juridique, du côté des artistes, pour rendre l'exploitation sur Internet possible. Je pense qu'il y a un apprentissage d'un tout nouveau mode d'exploitation. J'ai envie de dire, faites-nous crédit de ce revirement
qui s'adapte. Elle est en train de s'adapter. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer que face à l'offre de musique téléchargeable gratuitement sur Internet, il y a des ripostes qui sont commerciales, mais qui sont intéressantes pour tout le monde. Je veux dire, il est évident. Moi, j'ai vu par exemple certains artistes comme Peter Gabriel ou R faire de leur disque CD des produits d'appel qui vous donnent le droit, l'accès grâce à un code à des compléments musicaux, visuels, etc. sur Internet. Donc peut-être qu'on peut jouer aussi de ces complémentarités, peut-être qu'on peut rendre l'accès aux concerts, par exemple, payant sur Internet, ça intéresserait pas mal de gens, sans avoir envie forcément de les stocker, de les garder sur son disque dur. Ça aussi, il y a apparemment toutes sortes de possibilités qui permettent de laisser les gens télécharger un peu plus librement sur Internet de la musique, à condition que ça leur donne accès, toujours par Internet, à d'autres types de produits qui là seraient payants. Qu'est-ce qu'on a inventé, Florent Latrive, dans ce domaine?
Pour l'instant, on n'a pas inventé grand-chose, mais on a fait des pistes. Non, c'est la question qui va se poser. C'est à un moment. Moi, je ne crois pas qu'on va éradiquer, contrairement au fantasme de certains producteurs qui sont pas autour de la table, les échanges gratuits par Internet. Et encore gratuits, plutôt les échanges faciles par le peer-to-peer, parce qu'on peut imaginer, on y reviendra sans doute après, il y a sur la table des propositions qui émanent notamment des artistes-interprètes pour légaliser les échanges gratuit aujourd'hui, en échange d'une forme de redevance qui serait prélevée par exemple sur les abonnements aux fournisseurs d'accès Internet, ce qui permettrait à la fois de légaliser les pratiques d'échange massive et en même temps de prélever de l'argent.
Comme on fait sur le disque vierge, les cassettes vierges, voilà, etc.
Alors expliquez-moi si on...
Je dis juste ça parce qu'on a parlé
de ça. Un débat virulent avec les producteurs.
Quel sera l'intérêt du magasin de disques de mettre en facing, même un hyper, un produit que par ailleurs les gens pourront trouver pour une somme dérisoire?
Alors justement, c'est ça que je voulais dire, parce que la question qui se pose, celle des modèles économiques, et de tout temps, ça a été la question de beaucoup d'industries, et surtout des industries culturelles, même si industrie est un mot un peu important dans une industrie qui est très artisanale, et c'est sa noblesse. La question qui se pose, c'est la cohabitation des modèles. Donc évidemment, l'argument à chaque fois que les producteurs opposent à cette piste de licence légale, que je ne défends pas, je l'exposais, je disais qu'il y a cette solution qui est poussé par un certain nombre d'acteurs, associations de consommateurs, mais aussi à ce regroupement d'artistes-interprètes. Bon, c'est une solution qui a déjà été appliquée aussi en radio. En radio, on peut passer, c'est le même genre de solution, c'est-à-dire qu'en radio, on peut passer les disques, les radios peuvent diffuser les disques qu'elles veulent, en échange, il y a une redevance, un prélèvement sur le chiffre d'affaires des radios. Bon, la question qui se pose, c'est la cohabitation des modèles. Quand on regarde objectivement, on met de côté Internet. Aujourd'hui, quand on prend le disque, quand on prend le cinéma ou même la lecture, il y a une cohabitation de tas de modèles. C'est-à-dire, prenons le livre. On peut aller en bibliothèque emprunter des livres gratuitement. On peut acheter des livres d'occasion.
Quand on va même scanner des livres ou les photocopies.
Oui, alors moi, même sans rentrer dans des choses technologiques, je prends juste des choses mais qui sont historiquement lourdes. L'emprunt en bibliothèque, le prêt de livres sont des choses qui sont de la diffusion gratuite, et à côté, ça n'empêche pas les librairies de vendre. Il y a 8 fois plus d'emprunts en bibliothèque que de livres vendus en librairie.
Ça pose quand même des problèmes.
Mais ça pose des questions, pas des problèmes. Parce que, d'ailleurs, il y a eu un débat là-dessus sur le prêt payé en bibliothèque il y a quelques années.
Florent Latrive, vous avez fait ce bouquin formidable qui s'appelle « Du bon usage de la piraterie ». Imaginez que suite à cette émission, PPDA décide de vous inviter ce soir au JT de 20h. Enfin, il est peut-être en vacances, ça sera à la rentrée en septembre.
Je peux pas, j'ai du travail ce soir.
Alors bon, c'est déjà refusé. Mais disons, à la rentrée, il vous invite. Vous passez à 20h15. 150 000 Français veulent absolument lire votre livre « Du bon usage de la piraterie » parce qu'ils le trouvent excellent. Or, moi... je scanne entièrement ce livre,
mais
je le mets...
Il est disponible gratuitement sur Internet aussi.
Ah bah voilà. Et moi, en plus, je mets un bandeau publicitaire, et comme je vais avoir 150 000 personnes qui vont vouloir télécharger votre bouquin, je vais gagner de l'argent à chaque clic pour télécharger votre livre, et vous n'aurez pas un sou. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais la question qui se passe, c'est celle de la cohabitation. Moi, je suis tout à fait pour. Le livre est disponible en librairie et disponible sur Internet en libre accès.
Qui va s'amuser à aller l'acheter en librairie si moi je vous l'offre gratuitement en téléchargement après l'avoir scanné?
Et demandez à mon éditeur. Il a vendu, le tirage est quasiment épuisé. C'est un petit éditeur, c'est des petits tirages.
Là, je vous parle de 150 000 exemplaires qui pourraient vous rendre riche dès la rentrée.
150 000 exemplaires, ils seront vendus. Il y a des exemples. Moi, je pense qu'il faut arrêter de croire que c'est parce qu'il y a des accès gratuits qu'il n'y a pas de vente payante. Il y a des ventes en librairie et il y a de l'emprunt gratuit en bibliothèque. On peut regarder des films gratuitement à la télévision, alors c'est financé par d'autres moyens, etc. J'ai la gratuité
après,
de façade, exploité
en salle pendant une période
pas des
X,
règles, ça n'empêche pas des règles, mais dans le mode d'accès à la culture, il y a une diversité qui est terrible, qui va de la gratuité totale à des gratuités indirectes, c'est-à-dire de façade, où on accède à un film gratuitement, mais c'est financé par ailleurs ou par la publicité pour la chaîne, etc. Ça n'empêche pas d'aller réacheter des DVD. Le marché du DVD a explosé, même pour les séries. Il n'existait pas il y a quelques années. C'est-à-dire que la demande culturelle peut se décliner à l'infini. Donc, il faut arrêter de croire que les uns gobent les autres. Quand la télé est apparue, les exploitants de cinéma ont été persuadés que ça allait être la mort du cinéma. L'année dernière, on a fait la plus grande année d'entrée en salle depuis 20 ans, parce qu'ils se sont adaptés, qu'ils ont offert des services supplémentaires. Je ne dis pas que ça ne pose pas, encore une fois, il ne faut pas croire que ça ne pose pas des questions quand il y a des mutations, il faut revoir les équilibres et ça brouille un peu les pistes, il y a des nouveaux acteurs qui interviennent, etc. Mais ce n'est pas les uns contre les autres. Donc ce livre est effectivement en librairie et sur Internet, il y a eu énormément d'achats qui ont été induits par la lecture sur Internet, beaucoup d'achats qui n'auraient de toute façon pas eu lieu, où les gens ont pu lire ne serait-ce que des extraits, etc. Et c'est très bien. Il y a des éditeurs qui font ça depuis plusieurs années, et où ils ont leur plus grosse vente sur les livres qui sont en libre accès sur Internet.
Donc à votre avis, c'est complémentaire, les deux modèles économiques sont complémentaires.
Je pense que les uns peuvent se renforcer, ça peut se renforcer l'un l'autre, à condition de trouver les bons équilibres, et au moins d'expérimenter, ce qui aujourd'hui serait une chose très importante pour les industries
culturelles. L'un ne remplace pas l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, vous parlez d'une culture de la gratuité, je parlerais d'un mythe de la gratuité. Comme un mythe du nouveau média qui va remplacer, du média individuel Internet qui va remplacer le média collectif. Le média collectif crée du lien social. On aura toujours besoin d'énergie, on aura besoin de TF1, on aura besoin de France Culture. Et après, on aura besoin également de choses plus individuelles. Mais là, on ne remplace pas l'autre.
Je vous remercie, Laurent Rossi. Je rappelle que vous êtes le directeur du label Beggars. Je ne savais pas que vous aviez White Stripes à votre catalogue, sinon on aurait parlé un peu plus de musique. Je remercie donc évidemment Florent Latrive qui pour son excellent livre Du bon usage de la piraterie, qui est vraiment recommandable. C'est paru tout récemment chez Exil. Vous êtes journaliste à Libération. Et donc Marc Tenon, PDG du label Atmosphérique. C'était Contre-expertise, une émission réalisée par Vanessa Nadjar, préparée par Lucas Malter et Marie Richet. C'est une émission de Brice Couturier que vous retrouverez avec plaisir, en tout cas de mon côté, je ne sais pas si c'est le vôtre, demain à midi. À la technique aujourd'hui, c'était Cécile Brac. Il est 13h sur France Culture. Le journal de la rédaction présenté par Nadine Epstein.
Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, la CGT dépose deux recours devant le Conseil d'État contre les ordonnances Villepin sur l'emploi. Reportage d'Omar Waman. La flambée du prix du pétrole bénéficie à Gaz de France. Les explications de Marie Viennou. Tandis que le groupe Suez vise à tenir le rôle d'acteur majeur dans le secteur de l'électricité en rachetant la filiale belge Electrabel, Pierre Benazé nous appellera de Bruxelles. Les quotas d'importation textile chinoise sont déjà atteints. Des stocks de pantalons et de pull-over sont bloqués dans les ports. Le récit de Sarah Lemoine. Vraisemblablement, 123 hommes ont péri dans une mine de charbon en Chine. Les autorités prennent des sanctions, nous dira Nabila Hamel. Enfin, Téhéran s'apprête à briser les scellés de son usine d'Ispahan. Une correspondance de Stiavoche Ghazi. Mais tout d'abord, coup dur pour cet ancien militaire français en Algérie, victime des essais nucléaires. André Mézières est sous le choc. Le ministère de la Défense vient de s'opposer à la décision du tribunal des pensions militaires de Tours et a décidé de faire appel du jugement qui condamnait l'État à verser une pension d'invalidité à vie à ce retraité aujourd'hui malade. André Mézières avait fait son service militaire en Algérie durant les années 60. En juin dernier, la justice avait reconnu que sa maladie était liée aux conséquences des essais nucléaires au Sahara, ce qu'on conteste donc, Véronique Rebérotte, le ministère de la Défense.
Oui, le ministère avait 2 mois pour faire appel. Le 7 juin, il était clair pour le tribunal des pensions militaires de Tours que la maladie rare dont souffre André Mézières était due à une exposition lors d'essais nucléaires militaires dans le Sahara algérien entre 1962 et 1964. Hier matin, patatras, l'ancien soldat âgé aujourd'hui de 65 ans était plutôt surpris lorsqu'il a ouvert son courrier.
J'ai reçu donc un accusé réception. J'en cognais pas à mes yeux, j'y dis c'est pas vrai, qu'est-ce qui leur prend alors que nous tous nous étions un peu optimistes, disons même optimistes. Il faut pas baisser les bras et puis persévérer. Tout est à refaire, on repart au point de zéro. Parce que quand on dit faire appel, bon, ben, il faut de nouveau ressortir tous les arguments, de nouveau chercher des preuves, déranger tout un tas de personnes, et puis bon, ben voilà.
Pour l'AVEN, l'association des vétérans des essais nucléaires, les arguments avancés par le ministère de la Défense pour expliquer donc son appel sont plutôt sévères. Jean-Louis Valax, président de l'AVEN.
Il conteste la présence d'André Mézières au Sahara. C'est curieux. Et puis, il conteste tous les attendus du jugement, la présomption de lien de la maladie avec le service. Il conteste tout, absolument tout, comme si de rien n'était, comme si c'était avant le jugement.
Du côté du ministère de la Défense, on fait savoir que si à plusieurs reprises, dans des cas similaires, des pensions d'invalidité à vie ont été accordées à des militaires irradiés, cela a souvent été confirmé en appel, mais il n'y a pas de jurisprudence. Les situations sont appréciées au cas par cas. Pour Jean-François Bureau, porte-parole du ministère de la Défense, il y a dans le cas Mézières deux bonnes raisons en tout cas de faire appel.
D'une part, le jugement reposait finalement sur un raisonnement qui consistait à dire, puisque vous ne pouvez pas démontrer, vous autorité militaire ou autorité de la défense, que la maladie dont souffre M. Mézières ne provient pas des essais nucléaires, je vous demande de prendre en compte un lien de causalité qui de fait existerait, et donc de verser la pension, etc. Ce qui est nouveau dans ce raisonnement, c'est que la loi, c'est-à-dire le code des pensions, repose sur l'idée qu'on doit démontrer l'existence d'un lien entre une maladie et la participation à une activité militaire ou une activité de défense. Le deuxième aspect qui est directement lié à la situation de M. Mézières, qui est victime d'une maladie qui s'appelle la polymyosite, est une maladie qui, par ailleurs, du point de vue de la médecine du travail, ne constitue pas une maladie reconnue comme une maladie pouvant être issue d'une irradiation, c'est-à-dire d'une exposition à la radiation.
Alors, difficile de savoir ce qui va se passer en appel pour André Mézières. Son cas sera examiné par le tribunal régional des pensions militaires d'Orléans. La date n'a pas encore été fixée.
Une enquête de Véronique Reberot et de nos confrères de France Bleu Tour, Joanne Moison et Perrine Moutarde. En vacances sur le bassin d'Arcachon, Nicolas Sarkozy n'a pas laissé pour autant sa casquette de ministre de l'Intérieur. Ce matin, il a fait le tour des dispositifs de surveillance tenus par les policiers, gendarmes et pompiers du Cap Ferret et d'Arcachon. Nicolas Sarkozy a posé deux conditions à la reprise des vols des Canadair, l'aval des membres de la commission d'enquête et des assurances de la part du constructeur. La CGT a déposé des recours devant le Conseil d'État contre deux des six ordonnances sur l'emploi.